Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
C'est parti pour le numéro 607 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au bar avant restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec comme d'habitude un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. On parlera des armoires à vin Climadif et la sommelière, du concept Wine Republic, du succès de 3x20 avec Ludovic Aventin. On parlera de financement participatif, des cépages oubliés. Le terroir de Cahors également sera au menu et comme chaque semaine, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux avec un couple chic et choc, le duo merveilleux Hélène Piau et David Cobol. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Hélène, vous êtes ravissante.
Je vous remercie.
Les vacances, ça se passera où alors?
Pas dans des terroirs de vignobles, comme ça je vais vraiment me reposer.
C'est vrai, pas sous la pluie quand même.
C'est pas exclu.
Allez, dans l'agenda du vin, direction le Var, il fait très beau dans le Var.
Oui, pour un festival atypique qui transporte l'humour au sein d'un domaine viticole, celui du château de Saint-Martin à Tarado dans le Var donc. Le festival Rire en Vigne aura lieu le mercredi 27 et jeudi 28 juillet. Donc c'est la semaine prochaine, à l'affiche cette année, François Rollin en roue libre avec un spectacle spécialement...
François Rollin en roue libre, c'est drôle, oui.
Oui, voilà, spécialement conçu pour le festival. Et le duo Elle de Laffe et Alain Berthier qui racontera la vie de Michel Montana, chanteur raté des années 70. Si, c'est drôle, je vous promets. Pour cette troisième édition, le château de Saint-Martin innove avec un nouveau concept, bottes de foin et panier gourmand, ça fait rêver. Ça promet une ambiance plus que conviviale. Les humoristes jouent au milieu du public, il y aura une effusion de rire, promis juré. Tarif spectacle et pique-nique gourmand, 30 euros. Tarif réduit pour les groupes, les étudiants, 25 euros. Et un pass de soirée pour le spectacle et le pique-nique gourmand, allons-y, 50 euros. Toutes les précisions utiles sur rireenvigne.com.
David Cobol, on vous prend 2-3 places ou pas?
Je ne sais pas, j'hésite.
Oui, on en parle. Devenez français d'abord et puis après on verra. Alors en Aquitaine, qu'est-ce qui se passe?
J'ai autre chose à vous proposer. Vendredi 29 et samedi 30 juillet à Cocumont en Aquitaine. Convivialité et partage sont les maîtres mots de Festivino, la fête des vins. Les vignerons du Marmandais sauront vous accueillir dans la joie et la bonne humeur et vous feront découvrir tout au long du week-end l'authenticité de leur vin. Nombreuses animations tout au long du week-end, une école du vin, des démonstrations de cuisine, un espace pour amuser les plus petits, une course d'obstacles, l'invincible en plein cœur du vignoble. À ne louper sous aucun prétexte.
David ?
Alors, vous allez pouvoir goûter un cépage dont je vous parlerai tout à l'heure, la Bourriou. La Bourriou qui pousse dans le Marmandais.
La Bourriou, vous dites.
La Bourriou.
C'est assez local, donc, comme cépage.
C'est très local.
C'est très local, oui. Hélène Piau, alors ?
Et le tout dans une ambiance musicale made in sud-ouest, ça ira très bien avec la Bourriou. L'entrée est gratuite, c'est 4 euros le verre de dégustation, 10 euros pour l'invincible pack, course et verre de dégustation. Inscription sur festivino47.com.
Et enfin, Gigondas, c'est une belle région ça aussi, avec les dentelles de Montmirail notamment.
Exactement, alors au pied des dentelles, la cave de Gigondas organise 3 soirées dégustation en musique et à la lueur des lampions, avec assiettes de charcuterie, fromage et bar à vin. Mercredi 27, ambiance New Orleans. Mercredi 3 août, ambiance guinguette d'hier et d'aujourd'hui. Mercredi 10 août, ambiance cabaret latino. Et tous les détails sont sur cave-gigondas.fr.
Merci beaucoup Hélène Piau. David Cobold, un commentaire sur le millésime 1979. C'est bon, c'est pas bon, c'est comment?
Pourquoi pas? C'est un bon millésime sans plus à Bordeaux, qui est un peu en général de référence. C'est un peu pareil en Bourgogne, c'est-à-dire que c'est assez équilibré. C'était pas une année grandiose, mais c'était un vin qui avait un millésime qui portait beaucoup de fruits. Pas des tanins très, très sévères comme parfois les 78. Un bon millésime commercial.
Ça peut tenir encore, David, ou pas? Ou là, il faut le boire?
Pour les meilleurs, oui, mais la plupart auraient dû être bu ou il faut les boire. C'était un très bon millésime en champagne, d'excellent champagne qu'on peut encore trouver parfois sur le marché si on aime les vieux champagnes.
Alors, 79, c'est aussi la naissance de notre premier invité, David Cobold, Laurent Cabassu.
Je dirais que c'est, il tombe très bien parce que je sais qu'il vend des pneus et c'était aussi l'année de la deuxième choc pétrolière. Donc, c'est dans le domaine qui le concerne.
Laurent Cabassu.
Et le Pays de Galles, oui. Pays de Galles a gagné le tournoi Destination.
C'était 5 à l'époque. C'était 5, David. Merci, David Cobold. Laurent Cabassu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Pirelli France. Alors, un mot, parce qu'il paraît que c'est grâce au Tour de France à la voile que vous êtes rentré chez Pirelli après votre master à Dauphine.
Ouais, l'histoire est un peu amusante. C'est-à-dire qu'il fallait absolument me trouver un stage, puisque j'avais une année de césure en école de commerce, et j'ai envoyé des CV un peu à l'aveuglette. Et la seule société qui a daigné me répondre à l'époque, c'est Pirelli.
Bon, alors un mot justement sur l'histoire de Pirelli. Tout débute en 1872. Ça rappelle une belle année pour les amateurs de foot aussi.
Oui, Pirelli est un des acteurs majeurs au niveau mondial du pneumatique. On parle donc d'une société industrielle italienne qui a une longue histoire, 1872. Et on est vraiment l'acteur spécialisé dans le pneu haut de gamme, le pneu premium, et le partenaire majeur de tous ces constructeurs haut de gamme.
Et aujourd'hui, donc, les actionnaires, les euro-actionnaires du groupe, c'est qui?
Donc, les actionnaires ont changé l'année dernière, puisque maintenant, on est détenu à 65% par un groupe chinois qui s'appelle Chem China, qui a pour activité principale la chimie, une petite activité pneumatique qui va se rapprocher de Pirelli dans les mois qui viennent pour former le quatrième acteur mondial au niveau du pneu industriel.
Et devant vous, il y a qui les trois premiers là que vous allez dégommer, si je puis dire ?
Il y a un Français, un Américain, un Japonais.
Bon, mes petits copains. Quoi. Voilà. Ouais. Alors, la R&D, la recherche et développement, c'est très important chez Pirelli. Hein, là. L'innovation et la recherche et développement.
Oui, c'est foncièrement énorme puisqu'on fait à peu près 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on investit quelques 400 millions d'euros chaque année en recherche et développement. Le principe étant qu'on doit accompagner nos partenariats avec les plus grands constructeurs mondiaux. Et aujourd'hui, chaque voiture nécessite un pneu sur mesure. Et plus on avance, plus il y a de modèles. Et plus il y a de modèles, plus il y a de pneus différents.
Vous roulez en pneu Pirelli, Hélène, ou pas ?
Je roule en Autolib.
Je ne sais pas si vous avez David Cobold.
Moi, je roule en Pirelli et sur deux roues. Et le Supercorsa, c'est un super pneu de sportif. Et pour les motos polyvalents, le Scorpion, c'est un excellent pneu qui a une adhérence remarquable sous la pluie.
Vous connaissez tous les deux, là, non ? La Formule 1 aussi, donc c'est partie de la génétique de la marque ?
Oui, là, alors Pirelli, de par son positionnement haut de gamme, haute performance, nécessairement une longue histoire dans le sport auto. Et maintenant, on en est à la 7e année consécutive de fournisseur exclusif de la Formule 1, qui est une véritable vitrine pour nous au niveau mondial. On parle d'un sport qui est encore, même si en France c'est un peu en perte de vitesse, 400 millions de téléspectateurs par an.
Alors comment ça s'appelle le magnifique ? C'est un calendrier que vous éditez chaque année ?
Exactement. Alors souvent le grand public nous connaît un petit peu par la marque et beaucoup par le calendrier.
Vous connaissez le calendrier, David Cobold, hein ? Vous êtes un coquin quand même. Ouais. Et vous, Hélène Pivot, qui êtes une sainte, vous connaissez ou pas ?
Oui, j'y ai figuré en 1900.
Alors dans l'actualité, il y a le lancement du pneu dont tout le monde parle, l'ultra haute performance P0. Qu'est-ce que c'est ?
Alors le P0, en fait, c'est un peu le fer de lance de la maison Pirelli. C'est un produit qui a été décliné depuis 30 ans. Donc, qui est issu, on va dire, de la compétition. La première véhicule qui a été équipée en P0, c'est la F40 de Ferrari, qui à l'époque était une vraie révolution dans l'univers automobile. Et aujourd'hui, on continue sur cette lignée. Et c'est la nouvelle génération qui vient d'être lancée et qui a aussi toujours vocation à être... conforter, on va dire, le leadership de Pirelli sur ce segment haut de gamme, premium, prestige.
Et là, le retour aussi de Pirelli dans la catégorie poids lourd, si je puis dire.
Exactement. En France, c'était la grosse actualité, on va dire, 2015, puisqu'on a relancé cette activité poids lourd sur le marché. Donc, on vendait déjà un grand nombre de pneus auto et moto, scooter, mais également, on vient de relancer notre ligne poids lourd.
Alors, je sais que vous écoutez chaque week-end une vidéo BFM sur BFM Business à Marseille. Vous êtes né à Marseille, hein, sur 103.1. Côté vin blanc, vous aimez quoi ?
Alors, c'est un petit secret de famille, pas vraiment, parce qu'il y a quand même quelques bouteilles qui sortent chaque année. Mais le vin blanc de Cassis, c'est mon péché mignon.
Alors, David Cobold, c'est une belle appellation qui vient de fêter comme
d'autres, d'ailleurs. Très louable péché. Excellent blanc, c'est surprenant dans le sud de trouver des blancs, mais c'est l'influence maritime, c'est la proximité avec la Méditerranée qui apporte beaucoup de fraîcheur dans ces vins, où il y a beaucoup, plusieurs cépages, mais vraiment une petite appellation, font aussi un peu de rouge. Mais c'est les blancs qui ont la
vous, Laurent, c'est plutôt blanc que vous aimez.
Moi, je suis plutôt blanc, oui.
Et alors, côté rouge, alors ?
Alors, je resterai dans la région, s'éloigner un petit peu, mais on va dire le sud-est, sur les côtes rôties. Pour moi, les vins du Rhône,
vous
du Nord.
Vous aimez la chaleur, quand même, hein, les belles choses. Alors, justement, en parlant de chaleur, vous êtes marié il n'y a pas longtemps, bravo. Vous vous souvenez du vin qui était servi le jour de votre mariage ?
Alors, c'était le château Grand-Boise, qui est un château qui est en train un peu qui a été repris il y a 2-3 ans. Donc, on commence à voir les premiers, les premiers effets, on va dire. Et ils ont un rosé que je recommande, qui est frais
c'est
et formidable.
C'est le coup de cœur, quoi. Alors, vous partez dans quelques jours, dans 15 jours, précisément, en Polynésie pour votre voyage de noces. Nous y serons aussi. Est-ce qu'il y a du vin, David Cobold, en Polynésie ?
Alors, il paraît que oui, à Tahiti, on fait du vin, absolument. Je l'ai jamais goûté, mais notre confrère Philippe Forbrac, qui est un spécialiste du vin de Tahiti.
Moi, je l'ai goûté en blanc il y a quelques années. Ah, oui. Par rapport au vin de Suresnes, ça se tient. Oui, mais c'est vrai, c'est un vin local.
Ben, vous mettez la barre trop haute, là.
Et je vous en ramènerai.
Vous voyez, c'est pas le même climat.
On fait les vendanges en pirogue. Mais c'est vrai, le vin est très con, faut pas le louper, quoi. Dans votre cave personnelle, Laurent Cabassi, vous avez plus de 200 bouteilles. Vous achetez comment? Via Internet? Ou vous avez d'autres moyens d'acheter?
Alors, j'ai deux choses. Je fais pas mal de primeurs, parce que j'ai un de mes très bons copains qui est courtier en vin à Bordeaux. Donc, pas mal de primeurs Bordeaux pour la moitié. Et le reste, beaucoup sur Internet. Parce que l'avantage, c'est que j'ai un petit appartement et je peux les acheter.
Une très grande cave.
Au détail.
Au détail, quoi. Ouais. Là, les primeurs 2015 sur Bordeaux, ça vous intéresse ou vous dites, c'est encore millésime du siècle, ces bordelais sont trop forts, quoi.
J'hésite encore, mais je devrais quand même en rentrer quelques-unes.
Quelques-uns, quoi. Vous avez quoi
Soyez sélectifs. Tout n'est pas au top. Il y a
Qu'est-ce que vous avez, David,
choses.
Tiens, comme conseil à donner à Laurent, par exemple?
Moi, je ne goûte plus les primeurs, donc je n'ai n'est pas de conseil spécialiste. Notre spécialiste, Bernard Burchy, qui vient de temps en temps, oui. a déjà donné ses consignes, je crois. Il faut lire le Figaro, parce qu'il a, il goûte très, très, très bien.
Et écouter Invino BFM aussi,
clairement. Et écouter Invino. Mais il faut être sélectif. 2015 n'est pas bon partout.
Il n'est pas bon partout, quoi. En tout cas, le château Soutard, si vous aimez les Saint-Émilion, sur 2015, il est excellent, ça, avec un excellent bon. Rapport qualité-prix. Vous, dans votre cas personnel, vous préférez quoi? Le cognac, le calvados ou la tisane?
Je suis pas très digestif, mais un bon cognac, c'est quand même...
On peut dire tisane, il n'y a pas de problème. Quoi, c'est
non plus, non.
Et côté bulles, vos bulles, elles sont italiennes ou françaises? Un peu de Spumanti ou un peu de champagne? Qu'est-ce que vous préférez, quoi?
Non, je reste champagne. Je reste champagne à fond.
Et un dîner 100% champagne, ça vous inspire ou pas trop? Au contraire, c'est juste pour l'apéro?
Ouais, pourquoi pas. Non, ouais. Je trouve que c'est un bon champagne bien frais. Enfin, après, on choisit hein, le champagne pour l'apéro et le champagne pour le repas, c'est pas tout à fait...
Hélène Pure, un repas au champagne, c'est si je vous invitais pour vous séduire un jour, quand vous aurez divorcé, moi aussi. Est-ce que je peux le faire au champagne?
Écoutez, on peut commencer comme ça, ça me va très bien. On discutera de la suite plus tard.
Bon, et le marché business du pneu, là, la problématique en France, 2016-2017, ça fonctionne bien, les perspectives, vous allez rendre vos actionnaires chinois riches ou pas, encore plus riches plutôt?
On est très content. Les ventes de véhicules neufs sont reparties, donc évidemment ça fait ralentir un petit peu les ventes de véhicules pour les secondes montes, mais dans l'ensemble le parc français est reparti à la hausse. Les Français se reprennent du plaisir à acheter des voitures, des plutôt jolies voitures.
Il y a corrélation entre vente de voitures, ouais, parce qu'on peut aussi garder sa voiture et changer des pneus, quoi.
Oui, alors après c'est un mélange, c'est-à-dire qu'il y a le nombre de voitures sur le marché et puis après le nombre de kilomètres qui sont faits. Donc tendanciellement le nombre de kilomètres est à la baisse, mais le nombre de voitures est en train de repartir légèrement à la hausse. On a un phénomène aussi avec les pneus hiver. Alors, les hivers n'ont pas été très violents ces deux dernières années, donc ça n'a pas forcément favorisé. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur un marché relativement
positif. David Cobbold.
Ce qui est certain, c'est très compliqué d'acheter une voiture sans pneus.
Ah, David Cobbold. Enfin, quand vous serez français, il faudra changer votre mot. Merci beaucoup, Laurent Cabassu, le directeur général de Pirelli. Nous marquons une première pause, ensuite on tourne chez Nicolas, ici à Paris, au Bar à Vin, restaurant Nicolas, pour parler notamment Armor à Vin, de la sommelière et Climadif.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour accueillir un nouvel invité, Richard Guillorel, qui est le président du groupe Frio, notamment connu pour ses armoires à vin, la sommelière et Climadif, que j'ai rencontré il y a quelques jours, donc il n'est pas avec nous, dans les salons de l'hôtel Shangri-La à Paris.
BFM Business. Invino BFM.
Retour chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour accueillir un nouvel invité, Richard Guillorel, président du groupe Frio, propriétaire notamment des marques d'Armor à Vin, La Sommelière et Climadif. Bonjour Richard.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1951, diplômé d'école de commerce et de Dauphine, et vous avez passé de nombreuses années au sein du groupe Thomson. Racontez-nous.
Voilà, j'ai passé 30 ans de ma vie dans la vieille économie, comme on dit maintenant, à développer les ventes en Europe de téléviseurs, d'audio, de magnétoscopes. J'ai connu au début de ma carrière...
Vous avez connu les cassettes VHS.
Voilà, les cassettes VHS, la bataille de Poitiers à l'époque. Voilà.
Vous avez vécu aussi deux expériences sympas à l'étranger, notamment en Espagne et en Allemagne.
Voilà, j'ai été patron de la filiale espagnole et patron de la filiale allemande, ce qui m'a fait voyager et m'a appris à intégrer des cultures différentes, des langues aussi, et puis à savoir convaincre dans un univers qui n'est pas forcément amical au début, mais qu'il devient
au fil du temps. Richard Guillorel, donc en 2006, changement de vie professionnelle, vous quittez Thomson et vous allez racheter la sommelière. Alors pourquoi vous êtes intéressé au marché des armoires à vin?
D'abord, j'avais quitté Thomson, pas forcément volontairement, mais le business model de Thomson sous la houlette de Thierry Breton à l'époque s'était modifié. Donc, moi, mon savoir-faire, c'était la distribution en Europe de produits électroménagers. J'avais une bonne connaissance de la distribution et, j'allais dire, aussi une bonne compétence en termes de gestion d'entreprise. Et donc, j'ai voulu changer de dimension. J'avais 55 ans. Et je trouvais que c'était un bon âge pour...
Changement de vie, hein.
Voilà.
Pas d'épouse, hein. L'épouse est toujours la même.
Non, l'épouse est toujours la même. Et ma fidélité est totale. 30 ans chez Thomson, plus de 40 ans avec la même épouse.
Oh là, ça c'est grâce au pâté neuf. Enfin, moi, elle comprendra, quoi.
Et en même temps, le souci de, voilà, 55 ans, de changer de vie, de passer dans une ville entrepreneur.
Ce marché des armoires à vin pour la partie française, Richard, est-ce qu'il est porteur?
Ah oui, alors c'est une des particularités de ce marché, d'ailleurs pas uniquement en France, dans le monde, mais en particulier en France, c'est d'être porteur. Il est en croissance depuis, moi j'y travaille depuis 10 ans, mais il est en croissance depuis 20 ans.
Depuis 20 ans. Alors en 2011, donc, vous avez racheté Climadif, et aujourd'hui donc la société, la PME, c'est quoi, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires ?
C'est 43 millions exactement, on en vise 45 cette année, c'est... une place de leader en France. Nous avons plus de 50% de...
Il y a trois marques au total, hein, donc.
Voilà, oui. Il y a La Sommelière, Climadif et Avantage. Avantage est en plus une marque spécialisée dans l'univers de la cuisine pour les caves à vin, qui est un segment de marché qui se développe assez fortement. Et puis, surtout, nous avons fortement internationalisé nos marques. Au-delà de notre position de leader en France, nous sommes également maintenant leader en Europe. Nous exportons dans plus de 43 pays dans le monde. Nous venons de démarrer en Grande-Bretagne, nous démarrons au Japon, nous avons construit une filiale en Chine. Voilà, enfin, l'internationalisation de notre business est un credo.
Le capital de l'entreprise, dont vous êtes actionnaire, avec d'autres également ?
Je suis actionnaire, mes principaux collaborateurs sont également actionnaires. Et notre actionnaire principal, c'est le groupe BPCE à travers sa filiale Nexicap.
Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de vente directe. Nous sommes d'accord pour le marché français qui représente 40% de notre business. Il n'y a pas de vente directe, c'est via les revendeurs, quoi.
Oui, nous travaillons à travers la grande distribution, les magasins spécialisés qu'ils s'appellent Darty, Boulanger et d'autres.
Enfin, vous les prenez tous, hein.
Oui, mais je ne veux pas en fâcher d'autres.
Tous ceux qui comptent, en tout cas. Mais,
voilà, nous travaillons avec la grande distribution en France et avec des distributeurs dans chacun des pays dans lesquels nous exportons. Au-delà de la filiale espagnole qui, bien sûr, gère nos intérêts dans cette zone.
Qu'est-ce que c'est le site Vino Cadeau ?
Alors, c'est un site qui vend, en fait, des produits autour du vin. C'est-à-dire que notre métier de base, c'est la cave à vin, mais il y a tous les produits autour du vin, rafraîchisseurs, tire-bouchons, coupes pour servir... ce que nous appelons les wine dispensers, les préservateurs de vin pour permettre de conserver le vin quand la bouteille est ouverte de manière voilà pendant 15 jours.
Vinocadeau.com, je suppose, quoi.
Voilà, avec un K.
Vous avec un K, avec le K. Oui, plutôt un cadeau d'ailleurs, plutôt qu'un vino.
Absolument.
Vous, à titre personnel, vous adorez les vins de Loire.
Ah, moi j'ai historiquement je suis amateur de vins de Loire. Tout ce qui les savonnières, tout ce qui tourne autour des cépages comme le Chenin par exemple, qui est un cépage original qui donne, je trouve, des goûts très particuliers.
Alors, des Chardonnays, des Sauvignons, quoi. Voilà. Et vous êtes membre d'une fantastique confrérie, pour terminer.
Ah oui, je suis membre chevalier de la Puette et du Franc-Pinot.
Oula, qu'est-ce que c'est que ça, la Puette et le Franc-Pinot ?
C'est à Thoré-la-Rochette, dans le Loir-et-Cher. Ce sont des vins de Loire et il y a de excellents vignerons qui m'ont fait l'honneur de m'accepter dans leur confrérie, ce qui m'a permis de comprendre ce que c'était qu'une puette, d'ailleurs.
Qu'est-ce que c'est qu'une puette ?
Une puette, c'est un petit morceau de bois qui permet d'empêcher les tonneaux de rouler. Voilà.
Merci beaucoup, Richard Guiorel, le dynamique président des marques, notamment Climadif et La Sommelière. Nous marquons une pause et retour ensuite chez Nicolas Paris pour la suite de l'émission.
BFM Business. Invino BFM.
Voilà, c'était Richard Guiorel, le président du groupe Frio. Invino BFM retrouve maintenant la charmante Hélène Pio, qui n'a pas froid du tout, en pleine forme, journaliste à régal, pour nous parler de deux domaines coup de cœur, on va dire, à Cahors. Et en plus, un vrai coup de cœur, quoi.
Ah oui, absolument. J'étais effectivement à Cahors il n'y a pas très longtemps. Et je suis allée à la maison des vins Cahors Malbec, ce que je conseille à tout le monde de faire. C'est en plein cœur de Cahors. C'est vraiment un lieu, c'est la vitrine officielle des vins de la région. C'est un lieu très sympa, très design. C'est pas du tout poussiéreux ou intimidant. Et on y découvre tous les vins de l'appellation, soit pour des dégustations impromptues, soit pour des dîners avec des thématiques originales. Le prochain dîner, ça sera autour des accords country music et Cahors le 4 août. Et donc parmi cette vingtaine de vins que j'ai goûté là-bas, j'ai flashé sur deux bouteilles en particulier et je suis allée à la rencontre des vignerons.
Et vous avez flashé vraiment, on peut le dire, c'est des dégustations à l'aveugle, hein.
C'est ça. Donc je ne savais absolument pas qui faisait quel vin. Je savais juste qu'il y avait deux séries. Une plutôt sur les vins de terrasse et l'autre sur les vins de plateau. Alors je vais vous expliquer la différence. Et voilà, donc c'était juste divisé en deux catégories de terroirs, on va dire ça comme ça. Et je ne savais rien d'autre, je ne connaissais pas les vignerons. Donc justement, petit récapitulatif sur Cahors pour resituer un petit peu. Donc une AOC depuis 1971, une réputation, on va pas se mentir, longtemps malmenée par des vins noirs très tanniques, sans grand intérêt, redoré dans les années 90 par quelques grands noms, Alain-Dominique Perrin, Georges Vigouroux, Jean-Luc Baldès, et qui depuis bâtit sa renommée sur le cépage auxerrois, plus connu sous le nom de Malbec. Ce qui est très bien parce que c'est un cépage connu et reconnu grâce aux vins argentins qui l'ont remis au goût du jour, mais qui a tendance à faire oublier le magnifique terroir de Cahors. C'est un peu le problème, quand on pense Malbec, on pense Cahors. Il faudrait d'abord penser Cahors et ensuite Malbec. Alors justement, ce terroir, on résume, c'est facile, il suffit de regarder la structure de la vallée du Lot. Les vignes commencent au bord de l'eau, qui donne des vins souples et fruités. Au deuxième niveau, on a des vins plus charnus. En troisième terrasse, on trouve plutôt des vins de garde, plus tanniques, plus larges d'épaule, un peu rugbyman, un peu votre style, Alain Marty. Et enfin, tout en haut, sur les calcaires du Causse, c'est plutôt David Cobold, des vins en finesse, en charme, comme sculptés par la délicatesse, vous voyez. Donc c'est évidemment schématisé, mais grosso modo, ça se présente comme ça. Donc, mes deux vins, voilà, j'en ai trouvé un en terrasse et l'autre en plateau. Par hasard, les deux domaines travaillent en bio, mais ça, je ne le savais pas au moment de déguster les vins, je ne l'ai découvert qu'après. Et ce que j'ai aimé dans les deux, c'est qu'ils font vraiment bouger les lignes du Cahors. Donc, le premier, c'est le château Combelles-la-Serre. C'est un domaine du plateau, donc tout en haut, vous vous rappelez, les vins tout en finesse, en charme, mais surtout où on fait des vins éminemment buvables. À la fois concentrés, mais avec beaucoup de légèreté et de fraîcheur.
Et buvables à court terme ou il faut les attendre?
Il y a les deux. Alors, Combelles-la-Serre, c'est un vignoble de 22 hectares, 80% de Malbec, mais aussi du Merlot et de façon plus étonnante du Vermentino. Et j'ai donc rencontré les propriétaires, Julien et Jean-Pierre Hilbert, Julien le fils, Jean-Pierre le père, qui font donc des cuvées remarquables. Leur gamme démarre en rosé. Alors là, on n'est pas à Cahors, hein, puisque c'est du rosé. C'est un super vin de France qui s'appelle l'épatante antidote à la chaleur du Causse.
C'est délicieux, c'est mon rosé d'été.
Eh ben écoutez, ça ne m'étonne pas de votre radinerie, ça coûte 6 euros. C'est bien les Anglais, ça, même s'ils sont naturalisés français.
Il a un huitième de sang écossais, c'est pour ça qu'il met 6 euros, le monsieur.
Non, mais David a raison, c'est un formidable rapport qualité-prix. C'est super croquant, il y a de la framboise, de la cerise, de la groseille. En même temps, on a une super ampleur, de la longueur. Franchement, c'est magnifique. 6 euros, allez-y. Donc, l'épatante antidote à la chaleur du Causse.
Et le second domaine, alors?
Et on n'y est pas encore. D'abord, j'ai un blanc, j'ai de la cuvée, une cuvée qui s'appelle De la Terre à la Lune, un Côte du Lot magnifique, 10,50 €.
Tout est bon. Fais simple, tout est bon chez lui. C'est vraiment
vrai.
Excellent.
Deuxième domaine.
Un rouge en carbonique, 3 cœurs magnifiques, 8 à 25 €. Allez, donc, mon deuxième domaine coup de cœur, le château Au Mont Plaisir. Là, on est sur la troisième terrasse, à La Capelle Cabanac. La famille, c'est aussi une histoire de famille, c'est Cathy et Daniel Fournier, qui travaillent avec leur fille, Mathilde, qui a une trentaine d'années. Là aussi, des vins en rapport qualité-prix époustouflant. Les premiers valent 8 €, et on est vraiment content de les dépenser. Il y a un vin de pays du Lot Blanc, Mon Plaisir, 2015. Chardonnay, Viognier, ramassé en même temps, vinifié ensemble. C'est croquant, c'est fruité, il y a une belle tension, c'est super. Quand on passe en Cahors, le château Au Mont Plaisir, tradition, 8 € aussi. Là, on est sur des Cahors très classiques. Beaucoup plus dans ce qu'on attend habituellement, mais on garde la fraîcheur, la buvabilité, magnifique. Le Prestige 2015, c'est leur premier millésime en bio, 100% Malbec. C'est sympa, mais j'ai préféré le Prestige 2011. Donc on est sur la même cuvée, mais un peu plus âgé. Vous me demandiez s'il fallait les attendre. Là, je trouve que c'est mieux. C'est plus fondu, c'est légèrement poivré, un délice. Et puis le top du top, c'est leur cuvée Pur Plaisir, 26 €.
Ah, quand même.
Oui, mais 26 €, mais c'est pareil, ça les vaut. On est tellement content de dépenser ce prix-là pour avoir l'impression de croquer dans du raisin, du cassis, de la pivoine. Il y a un travail parcellaire, une réflexion sur l'élevage des vins. Bon, on ne boit pas la bouteille, mais le fait est que Mathilde travaille beaucoup sur l'habillage des bouteilles. Et tant qu'à faire, si elles sont jolies, est-ce qu'on les pose sur la table en étant fiers, bah, tant mieux. Enfin, vraiment, tout est mis en place pour réaliser les plus beaux flacons possibles. J'ai encore le temps pour quelques adresses pour les déguster.
Mais vraiment rapide. Hein.
Super. Alors, bon, il y a la Villa Cahors à Malbec, Cahors, on en a parlé. Un nouveau caviste à Cahors aussi, il faut vraiment y aller. C'est Place Champollion, les petits producteurs saveurs du Quercy. En plus, vous pouvez manger une petite planche sur place, des bons produits, du foie gras, des salaisons, des confitures, c'est super. Et puis, quelques restaurants coup de cœur à Cahors aussi, où vous pouvez déguster une super carte des vins. Le Balandre, Cuisine Côté Sud et l'eau à la bouche.
Merci beaucoup, Olivier, vous êtes formidable, comme d'habitude. Nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour chez Nicolas Paris pour parler de Wine Republic et du concept 3x20.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour le Vino Quiz et l'excellente Hélène Pio qu'on peut lire matin, midi, soir dans Régal avec un numéro spécial pendant l'été consacré au Lot, c'est ça?
Au Lot et donc au vin de Cahors.
Exactement. Alors, le Vino Quiz.
La semaine dernière, la question était où se situe le champagne Elodidée ? Réponse A, sur la côte des Blancs. Réponse B, sur la montagne de Reims. Ou réponse C, dans la vallée de la Marne.
Et la réponse ?
La bonne.
La bonne réponse était la réponse B, sur la montagne de Reims.
Et cette semaine, alors, c'est le dernier Vino Quiz avant les vacances.
Absolument. Alors, Terra Hominis finance l'achat de domaines, oui, mais dans quelle région ?
On en parlera tout à l'heure, il faut bien écouter l'émission.
Est-ce que ce sera la réponse A, le Languedoc, la réponse B, l'Auvergne, ou la réponse C, la Corse ?
Il n'y a pas l'Angleterre là-dedans ?
Non, il n'y a pas l'Angleterre. Ouais. Mais si vous voulez répondre et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@invinojeux.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Hélène Pio, Invino BFM. Accueille maintenant une nouvelle invitée, Marie-Dominique Bradford, fondatrice de 3x2. Bonjour, Marie-Dominique.
Bonjour.
Alors, racontez-nous, vous êtes originaire de Bourgogne. Vous avez passé quelques années, là, à Paris. Vous avez travaillé dans la pub. Vous êtes exporté dans le Cinoche, là.
Et... Oui, j'ai fait plein de choses avant de revenir à la base, à la vraie vie.
Et vous avez changé de vie en 94. Pourquoi ? Vous avez trouvé un super vigneron hyper sexy, le Georges Clooney des vignobles.
Ça aurait été bien, mais c'est un peu moins romantique que ça. Les racines familiales qui ont ressurgi le jour où j'ai eu envie de faire partager un peu mon amour du vin qui coulait dans mes veines, mais qui a été alimenté.
Vous êtes reparti étudier, tout ça ?
Je suis reparti étudier. J'ai passé pas mal d'années à étudier. On se prend un peu au jeu, donc faut s'arrêter à un moment.
Oui.
Trois années dans le programme des Masters of Wine, c'était déjà pas mal. J'ai décidé d'arrêter ça et d'essayer de faire partager toutes ces incroyables découvertes que je faisais.
Alors, c'est quoi ce concept, la 3x20? D'abord, le nom est sympa.
Le nom est sympa. 3x20, 3 fois du vin, 3 bouteilles de vin tous les mois, ou 2 bouteilles, c'est décliné.
Donc, c'est vous qui avez inventé le concept des box en France?
Écoutez, en 2010, ça n'existait pas. Ça balbutiait vaguement dans la beauté, mais ça, j'étais pas très au courant. Je suis pas très cliente de ça.
Contrairement à Dave Cobold,
qui est.
Et ça ne se boit pas, de toute façon.
Ça ne se boit pas, donc ça ne présente aucun intérêt.
C'est une crème de beauté, mais bon.
On peut essayer, mais on finit mal.
On finit mal, quoi.
En tout cas, ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas, et le vin, c'était quand même ça.
Alors, votre principe, comment ça marche? Donc, il y a 4 formules dans votre abonnement, c'est ça?
4 formules différentes. Il y a 2 formules un peu plus classiques et 2 formules premium déclinées en 2 et 3 bouteilles.
Combien ça coûte le classique et le
premium ? Le classique, ça coûte 24,90
par
et
mois.
C'est livré. C'est le prix livré
les
à
3
domicile
bouteilles.
Pour 2 bouteilles.
Deux bouteilles.
Partout en France, même
chapeau.
Jusqu'en Belgique.
D'accord. Et la formule la plus chère, c'est...
Et la formule la plus chère, 65,90, livrée aussi. Hein. C'est toujours, nous, il n'y a pas de mauvaise surprise à la fin du
tout
canal
inclus,
d'achat.
Quoi.
C'est prévu d'avance.
Et le prix, c'est l'abonnement, c'est sur 12 mois ou...
C'est mois par mois, comme d'accord. On veut. Soit en prélèvement mensuel, comme on s'habitue à un abonnement de téléphone,
ben
c'est pareil, c'est exactement la même chose. Ça fait partie de son budget mensuel. Puis on peut quand même bien déguster 2 ou 3
et
bouteilles
donc,
de vin par mois.
On vous fait entièrement confiance.
C'est le principe.
Et ce sont des vins de saison. Je suppose que vous avez plutôt des rosés en juillet qu'en décembre.
On a eu un rosé en juillet et on a eu des choses plus hivernales en décembre, bien sûr. Mais l'idée, c'est quand même de faire voyager les gens mois après mois à travers les cépages, les régions, les styles, les personnalités de vin, tout en leur racontant des histoires pour rapprocher les gens.
Si on aime une ou plusieurs bouteilles dans un coffret, est-ce qu'on peut commander une caisse entière ?
Bien entendu. C'est le principe de recevoir une bouteille, de la goûter pour en acheter plus après et se constituer une petite cave ou la déguster dans la foulée.
Dans la foulée, voilà. Quoi. Et donc, vous occupez également du service. Quand on aime une bouteille, on vous recontacte et là, vous pouvez nous vendre...
Tout est fait en sorte sur le site pour que vous recommandiez les bouteilles, vos propres coups de cœur, et on offre les frais de livraison.
C'est sympa, ça. Vous avez également une cave physique à Paris, dans le 3e arrondissement ?
Alors, le site a 6 ans. 3 ans plus tard, l'envie de partager encore plus physiquement, au moins localement à Paris, était plus fort que tout. Et on a ouvert une cave qui est un peu le bateau amiral et le point de ralliement.
Quelle est l'adresse ?
12 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris 3e, à République.
À République,
voilà,
c'est un quartier très sympa.
République.
Et c'est ouvert quoi, matin, midi, soir, 7
c'est
sur 7 ?
C'est ouvert plutôt en fin de journée. Et on crée plein d'événements, on fait des apéritifs pour les abonnés. On leur fait déguster tous les vins avant qu'ils repartent avec leur...
Avec modération toujours. Hélène Tour en réagit donc aux propos, à l'initiative de Marie-Dominique. C'est sympa. Hein.
Ah ben moi, je trouve ça très sympa. Sa boutique est très sympa aussi pour les Parisiens ou les touristes qui se baladent dans la République. Et puis surtout, le principe est super parce qu'effectivement, il y a, comme Marie-Dominique Bradford le disait, il n'y a aucune surprise à l'arrivée. On ne se dit pas, ah ben non, j'habite Clermont-Ferrand, alors du coup, j'ai 15 euros de plus à payer. Il n'y a aucune mauvaise surprise possible.
David Kebol, donc le concept donc a été dupliqué. Hein. Aujourd'hui, on a une offre qui est pas pléthorique, mais en tout cas, elle existe réellement en termes de box.
Mal, ouais.
Marie-Dominique a ouvert la voie, j'allais dire.
Non, c'est une très bonne idée. Et bravo à elle.
Vous avez combien d'abonnés? Enfin, je sais pas si le chiffre est un peu confidentiel, peut-être.
Oh, c'est pas que c'est confidentiel, c'est que ça fluctue énormément. Mais notre grande force, c'est qu'on a à peu près 40% d'abonnés stables.
Hey, c'est pas mal ça.
Donc c'est ça qui fait qu'on a un vrai vivier d'amateurs qui sont très attachés à la marque et qui ne s'en vont pas.
Et d'un point de vue logistique, vous stockez tout chez vous ou ça part chez les vignerons? Comment c'est organisé?
Alors les vignerons envoient chez notre... On a un logisticien qui s'occupe de mettre en colis et expédier un fichier qu'on
envoie
tous les mois.
Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est la logistique.
Exactement.
C'est la logistique.
Enfin, bien sûr, la sélection d'abord.
Bien sûr. Et nous, on a décidé, j'ai décidé depuis le tout début de dépenser l'argent dans le vin. Et pas dans
la communication,
le marketing. Voilà. Donc ça reste très confidentiel finalement, ce qui fait la grande force du concept, parce qu'on peut travailler avec des petits producteurs et des cuvées un peu confidentielles.
C'est super. Le site, vous avez une adresse pour en savoir plus?
Et c'est 3x20.com en lettres.
Comment ça s'écrit 3x20?
Ça s'écrit TROISFOISVIN.
Bon, vous êtes super. Merci beaucoup. Bon vent pour ce site. On a un nouvel invité, Benjamin Albaret, qui a cofondé Wine Republic. Bonjour Benjamin. C'est génial ce qu'elle fait, la Moselle, non?
C'est très beau. Nous on connaissait, on regarde beaucoup ce qu'elle fait, on aime bien ses sélections, donc on est fan.
Alors vous, c'est pareil, vous aviez une vie avant le vin dans les médias, quoi.
Exactement. Et moi, je travaillais sur une chaîne télé cryptée pendant 14 ans.
Ouais, qui perd pas mal d'abonnés en ce moment, qui...
Ça ne me concerne plus.
D'accord. Et vous faisiez quoi pour eux?
En fait, je fais beaucoup de métiers, mais ça ressemble un peu à ce que je fais aujourd'hui, parce que l'idée, c'était de trouver le bon programme pour la bonne personne. J'ai travaillé à la programmation, puis après, je suis passé en digital pour faire Canal Plus à la demande et Canal Play, qui était l'idée de que les gens puissent utiliser le digital pour trouver le bon programme pour eux.
Et qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez pris une année sabbatique, j'ai l'impression?
Oui, moi, je suis parti un an en voyage, un voyage fabuleux. Donc, Canal Plus m'a permis de le faire, donc je les remercie encore, pour aller à la découverte, alors pas de vin à la base, plutôt de chefs. Donc, des chefs que j'ai rencontrés partout dans le monde, mais des petits chefs, des grands chefs, et puis j'ai adoré leur générosité. J'ai fait des portraits de ces gens-là. Et puis
pourquoi la gastronomie? Parce que vous êtes diplômé de Néoma à l'école de commerce de Rouen, donc au Carabao.
Parce que j'aime ça, parce que le
soir,
je
suis resté maigre en mangeant, parce que nous, on est grossi quand on mange. Hein.
Ouais, il y a le sport, la génétique, je sais pas, j'ai un peu de chance.
Ouais, bon, voilà. Allez, d'accord. Ouais. Et donc, alors, vous revenez après cette idée cette année-là?
Voilà, je suis passé quand même par la Nouvelle-Zélande où je suis tombé un petit peu amoureux là-bas aussi des vins et de la cuisine, un pays fabuleux.
Il y a
de quoi faire. Mmh. Et puis donc, je suis revenu donc en France, dans ma belle société. Et puis l'idée a germé quelque part dans un coin de la tête. J'avais aussi tous les soirs chez moi une jeune femme qui travaillait pour Château Online, Feu Château Online.
Jeune femme, c'est votre compagne, c'est ça?
Ma compagne, voilà.
Quoi,
non, ouais, non. Et donc finalement, voilà. Donc il y a une petite graine, tout ça a germé, et donc le projet est né en 2014.
Et alors, qu'est-ce que c'est donc le concept? On va l'expliciter.
Alors donc Wine Republic avec un K, hein, je précise à la fin. Le concept, c'est simple, c'était de créer une plateforme qui permet d'acheter directement son vin à des vignerons talentueux avec la recommandation d'une communauté. Voilà. Le constat qu'on avait fait, c'était que, et je connaissais le problème chez Château Online, c'est que beaucoup de sites s'adressaient souvent aux spécialistes, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres. Aujourd'hui, hein, c'est quasiment que les spécialistes qui achètent du vin sur Internet. Et on s'est dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas une proposition pour des gens peut-être un petit peu moins connaisseurs, qui peuvent être des gens amateurs sans être connaisseurs, et qui puissent trouver des outils qui leur correspondent pour acheter ce vin en ligne. Voilà.
Et donc là, les gens se groupent, c'est ça, pour commander
Alors ça, c'est une fonction qu'on a mis en place depuis quelques semaines maintenant. À la base, on est vraiment une place de marché. Hein, donc ça veut dire que nous, on stocke pas le vin, on vous met en relation avec le vigneron, puis c'est le vigneron qui vous livre. Une communauté valide les vins avec des avis. Et puis voilà, depuis quelques semaines, parce qu'effectivement, on a parlé de logistique, on a parlé de transport, tout ça reste un problème dans le vin. Le vin, c'est lourd, ça casse. Et on s'est dit, comment faire pour résoudre ce problème? Et une des bonnes manières, c'est de se grouper.
Oui.
Donc, on a lancé l'achat groupé, qui est une sorte en fait de litchi du vin, hein, de ces petites cagnottes qui permet à chacun, en payant de son côté, de réunir une cagnotte. Là, c'est la même chose. Chacun paye de son côté, puis on est livré à un seul endroit, par contre. Donc, ça peut être chez soi et on partage avec ses voisins. Ça peut être au bureau et on partage avec ses collègues. Et puis la bonne nouvelle, c'est que à un moment donné où le vin arrive, on le distribue, ça peut être l'occasion de reboire un coup tous ensemble et ça favorise la convivialité.
Avec modération toujours. Hein,
avec modération, bien sûr, mais quand on est plusieurs, il y a moins à boire. Donc,
Une bouteille pour 10, ça va.
Une bouteille pour 10, ça va. Et puis c'est bon pour le prix du transport, c'est bon pour la convivialité, et puis c'est aussi bon pour l'écologie, ça fait qu'un transport.
Bon, allez, on réagit. C'est bien ce projet-là aussi, vous en pensez quoi, Alain Piau?
Qui compose la communauté qui valide la qualité des vins?
Oui. Alors cette communauté, elle est totalement libre, hein, puisqu'aujourd'hui, toute personne peut venir sur le site, créer un compte. Pour collecter les avis, il y a deux manières, soit parce que la personne a déjà goûté le vin et ou l'a acheté chez nous, soit parce qu'on fait énormément d'événements. On est partenaire avec pas mal de cafés d'endroits à Paris, où là, on va présenter nos vins et collecter des avis, ce qui permet aujourd'hui d'avoir 5000 avis sur le site, ce qui commence à être relativement important.
Oui. Mais dans un premier temps, vous faites une sélection et vous le soumettez
oui.
à votre public.
Oui, au début, c'était pas l'idée. Puis finalement, on s'est aperçu qu'on pouvait pas lancer ce type de service sans faire une sélection. Donc, on a écouté David Cobbold, on a écouté NPO, on a écouté plein d'autres gens comme ça. Et on s'est dit, on va aller chercher...
Faut jamais les écouter, en fait.
On va chercher des vignerons bien. Alors, c'est marrant, parce qu'un des premiers vignerons qu'on a rentré, c'est le Château Grand-Boise, dont parlait Monsieur Pirelli tout à l'heure. Hein. Donc, c'est un vin qui...
Laurent Cabassul, directeur général de France de Pirelli, oui.
Voilà, c'est un vin qui tient la route, si on me permet le jeu de mots. Voilà, et qui est vraiment très beau, un très beau rosé. Donc, je confirme. Donc, c'est vrai que c'est comme ça qu'on va sélectionner ces vins. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des vignerons qu'on va chercher, parce que c'est des gens qui sont très investis dans leur vigne, travaillent, et c'est un petit peu comme vous tout à l'heure, sans faire exprès, à 70% en bio, voire en biodynamie. Et voilà, c'est une démarche aussi qu'on aime soutenir.
Bon, est-ce que vous gagnez des sous? Parce que BFM Business, on parle d'argent.
On gagne des sous, alors pas assez, hein, donc il faut continuer à venir nous voir pour acheter plus de vin. On a un business model aujourd'hui qui a la commission, donc on prend une commission à chacune des ventes qu'on effectue. Aujourd'hui, site, c'est à peu près 2000 bouteilles vendues par mois.
Ah, quand même.
Ouais, voilà, donc ça commence à être relativement important, mais la croissance est là, donc on est content et on espère attaquer Noël 2016 avec des très beaux chiffres encore.
Le capital, qui sont les heureux futurs actionnaires? Pour l'instant, ils donnent des sous, après ils sont peut-être heureux.
Alors, dans le capital, bon, il y a les quatre associés fondateurs, donc il y a Arnaud Leguet, avec qui j'ai fondé le site. Il y a Frédéric Gay, un directeur technique très brillant. Sébastien Depi, qui travaille à la cave Bottles aussi, qui nous aide dans la sélection des vins, qui est quelqu'un vraiment de fabuleux. Et puis, on est aidé tout ça par Olivier Canté, qui est l'ancien CEO de Rip Curl et d'Oclé, qui est quelqu'un qui a une vision, lui, plus business que nous, et qui nous emmène et qui nous coach pour aller plus loin et être plus
super.
Performant.
Voilà. L'adresse, c'est quoi?
Alors, merci. Donc, Wine Republic, tout attaché, avec un K à la fin, .com. Et profitez en ce moment avec l'euro, on a de très belles offres. Voilà. Et puis aussi, je voulais dire qu'on s'est mis à la bière, à micro.
Micro-brasserie. On va en parler. Merci beaucoup, Benjamin.
Merci
beaucoup.
À vous.
On marque une pause. Et puis après, retour chez Nicolas à Paris. C'est la dernière pause pour recevoir Ludovic Aventin pour parler justement de financement participatif dans le vin.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin, restaurant Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Ludovic Aventin, qui est le fondateur de Terra Hominis. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Alors ce concept, il s'appuie sur quoi? Sur le financement participatif, racontez-nous.
Alors le financement participatif, c'est quoi? C'est quelque chose d'ancien quelque part, parce que la première personne que je connaisse qui est fait du financement participatif, c'est mon grand-père, dans le Calvados, après-guerre. Oui, tout à fait. Et il a monté sa ferme et les voisins, les amis, les relations ont mis chacun un petit billet parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des banques partout. Aujourd'hui, il y a des banques partout, mais il y a des jeunes qui ont du talent qui ne se font pas suivre par les banques. Donc, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Si papa et maman sont pas riches, ils peuvent pas s'installer.
Donc, et vous financez ou ce sont des dons? C'est quoi?
C'est du financement. Le principe, on trouve un terroir intéressant, on trouve un vigneron de talent, on monte un projet économique et on propose aux gens de prendre des parts dans la terre. On achète les vignes. Pas de fonds de commerce. On achète les vignes, on les met en fermage au vigneron.
D'accord.
Ce qui fait qu'on n'a pas de risque. On a juste un loyer à percevoir. Ce loyer, il est en bouteille de vin. Il n'est pas en argent.
D'accord. Et les rendements sont de combien? Parce qu'en ce moment, les rendements, on est plutôt négatifs. Hein.
Alors, le rendement, on donne 4,5% en bouteille de vin, en valeur prix public.
Bah, c'est pas mal, ça.
Ça fait que c'est intéressant pour la personne qui prend des parts, mais c'est intéressant pour le vigneron parce que c'est prix public. Pour lui, ça lui revient au même prix qu'un fermage traditionnel.
Et en plus, les actionnaires, si on peut dire, donc également bénéficient de tarifs préférentiels quand ils souhaitent acheter du vin, c'est ça?
Tout à fait. Ils ont le tarif revendeur. Ils ont généralement 40% de remise. Et surtout, les vrais dividendes, c'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est le partage. Parce que si tu vas faire les vendanges, si tu goûtes le raisin dans les vignes, tu reviens quelques mois après, tu le dégustes lorsqu'il est en train d'être élevé. Il y a une émotion qui va naître lorsque, quelques mois après, la bouteille va arriver sur votre table.
C'est un peu le bébé qui arrive. Hein.
Voilà, tout à fait, on l'a vu naître.
Alors, vous êtes dans le Languedoc-Roussillon. Pourquoi le Languedoc-Roussillon? C'est
parce qu'il n'y a pas de vignes en Normandie. C'est facile.
Parce que vous aimez le rugby, parce qu'il fait beau, parce qu'ils sont sympas, parce qu'il n'y a pas de tramontane.
À la base, c'est une émotion gustative. Il y a beaucoup d'émotions gustatives dans le Languedoc. C'est un terroir qui est très grand, très vaste. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des terres à des prix intelligents et c'est pas le cas partout. Donc, il y a du soleil. On n'a pas besoin de chaptaliser.
Donc, qu'est-ce que c'est chaptalisé? Ça veut dire quoi, ça, Hélène Piau, là?
Ajouter du sucre, mon Dieu, c'est terrible. Non, c'est pas terrible du tout. C'est tout à fait habituel et tout à fait autorisé dans certaines appellations.
Mais dans le sud, on n'en a pas besoin. Non. Le soleil est là, quoi, exactement.
Il faut dire rajouter du sucre avant la fermentation.
Avant la fermentation. Oui, alors, aujourd'hui, donc, il y a combien d'hectares? Vous avez 47 au total, si je puis dire, c'est ça?
Oui, on a à peu près ça. On va créer un nouveau domaine, là. On a un peu plus de 700 associés. C'est un club d'amateurs de vin, de gens qui aiment la vie, qui n'ont pas fait un placement financier spéculatif. Les parts, en général, tournent autour de 1500 euros. Et les gens prennent ça comme une cotisation à un club à vie. Et lorsqu'on est associé sur un vignoble, moralement, on est associé sur tous les autres. Et partout, on est accueilli comme un associé.
Et on sent que le cœur parle, là. Il y a un petit côté famille dans vos propos, chez vos actionnaires, adhérents. Il y a un esprit rugby.
Ah, il y a un esprit rugby parce qu'on a créé un vignoble où on est 100% rugbyman. Pour être associé, il faut avoir joué au rugby. Il y a 15 jours, on a fait l'Assemblée Générale. On a créé le plus grand terrain de rugby au monde, 5
km.
Avec un principe où
on
pèse tout le monde au départ. Et on a une boucle avec des stands gastronomiques tous les 500 mètres.
Il faut grossir.
Avec des gens à la guitare, avec des 2 étoilés Michelin, avec Pierre Auger, vainqueur de Top Chef. Et on passe en moyenne 5-6 heures. On pèse tout le monde au retour. Et le gagnant, c'est celui qui a pris le plus de poids entre le départ et l'arrivée.
C'est un marathon inversé, ça. Et donc le vainqueur, il est pris combien en pourcentage?
3 kilos.
3 kilos. Bon, il en pesait 30, il fait 33. Maintenant, c'est... Bon, allez, on réagit sur les propos donc sur Ludovic et son projet, Hélène Piau. C'est aussi très sympa.
Ben oui, c'est très sympa parce qu'effectivement, c'est convivial. Comme Ludovic Avantin le disait, il n'y a aucun risque pour personne, finalement. Donc, c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant et ça permet d'encourager plein de jeunes à faire du vin. C'est plutôt sympa.
David Cobol.
Oui, mais ça encourage surtout le partage. Le partage du risque, même si le risque est minimalisé, le fait de prendre conscience que le vin, c'est un produit agricole, donc il y a des risques, de comprendre le processus petit à petit en participant, le fait de faire la fête ensemble et de goûter ensemble, et effectivement, le Languedoc, c'est le bon terrain de jeu pour ça.
Mmh. Il y a un peu de femmes aussi, mais ça a l'air très masculin, votre truc.
Non, il y a des femmes aussi, pas les nôtres, mais il y a des femmes.
Pas les nôtres. Et alors aujourd'hui, donc, 47 hectares, l'ambition, c'est quoi? De le porter à 50,
non,
à 100, à 1000?
L'ambition, c'est de préserver l'état d'esprit que l'on a et d'installer des jeunes qui ont du talent, parce qu'il y a vraiment, on a une génération de jeunes comme je pense qu'il n'y a jamais eu. Ils sont formés, ils ont des compétences, ils ont voyagé dans le monde entier et ils ne peuvent pas s'installer. Donc on donne du sens à notre argent en mettant un petit billet, en se faisant plaisir.
D'accord.
Et après, je rajouterai, 2/3 des vignerons dans le Languedoc ont plus de 55 ans.
Oui, la relève que David Cobol.
Ça, c'est un élément absolument essentiel, c'est-à-dire que c'est aussi un projet social. C'est un projet qui aide les gens à rester sur la terre quand ils n'ont pas les moyens. Et on sait à quel point les droits de succession pénalisent les jeunes vignerons.
Donc l'ambition en termes de nouveaux domaines, partenaires, elle existe ou on s'arrête là?
Oui, non, on a un nouveau projet, un monsieur qui part à la retraite justement, on a trouvé un jeune qui est chef d'exploitation, qui va prendre la suite. Ensuite, je voudrais sortir un petit peu du Languedoc, on aimerait bien aller en région Midi-Pyrénées, le terroir de Cahors m'intéresse.
Le sud-ouest est intéressant, oui.
Il y a des choses, il y a de vraies belles choses à faire là-bas.
Et vous, avant de vous lancer là-dedans, vous étiez où?
J'étais sur Rouen, j'étais caviste en Normandie.
En Normandie, quoi. Alors l'accueil, là, ils ont été sympas pour vous accueillir ou pas? Ils sont chaleureux, ces gens, ou pas?
Oui, super chaleureux, très sympathiques. Pour essayer de créer un peu de relations, j'avais créé un club échangiste réservé aux vignerons, c'est-à-dire un club d'échange d'idées.
Oui, bien sûr.
Et donc, ça a permis de créer des liens très facilement.
David Cobol, vous étiez membre, David Cobol, peut-être, non?
Non, parce que
membre
dans ma région, mais
si.
Membre d'honneur, quoi, c'est très bien, ça. Bon, Ludovic, pour terminer, donc le site, l'adresse, hein, pour vous retrouver en savoir plus sur Terra Hominis, c'est quoi?
Alors, c'est www.terra Hominis, avec un H,
écrit,
la terre des hommes.
La terre des hommes.
Terra, T-E, 2RA, Hominis, H-O-M-I-N-I-S.
.com. Merci beaucoup, Ludovic. InVino BFM retrouve David Cobol, monsieur échangiste d'ici, qui va donc se changer en spécialiste des cépages oubliés, David.
Alors, je vais parler de cépages oubliés, mais aussi de cépages pas encore découvertes. Et qui vont peut-être devenir essentiels dans l'avenir. Parce que quel est l'enjeu là? Ça concerne à la fois le marché de vin et ça concerne aussi l'avenir du vignoble et la santé de l'environnement. Donc c'est vraiment un double sujet de fond. 3 constats. Le monde du vin est dominé par un petit nombre de cépages, on va dire une petite dizaine qui sont connus à peu près partout dans le monde. C'est peu pour la diversité. 2e constat, depuis le 19e siècle, plusieurs maladies se sont installées dans le vignoble en Europe, continuent à faire des ravages, continuent à nécessiter des traitements plus ou moins fort selon la région. Dans les zones humides, c'est plus important. Et je ne parle pas de phylloxera, je parle de mildiou, d'oïdium dans ses différentes formes, et aussi les maladies du bois. Ça pose des problèmes de produits cumulatifs dans le sol, ça pose des problèmes pour les gens qui traitent, et c'est devenu une priorité nationale de réduire ces produits traitants. Produits de soins, si on préfère, parce que traitant, c'est un peu radical, mais c'est un problème, et on ne peut pas obvier ces produits. Même en bio, on utilise le cuivre et le soufre, c'est pas nécessairement très bon pour la terre, surtout le cuivre. Donc cette priorité existe au niveau européen, existe au niveau français, et ça milite pour une solution à volets multiples. Et un des volets, je ne parlerai pas des autres aujourd'hui, mais je vais les développer peut-être plus tard dans d'autres émissions, un des volets, c'est la recherche dans l'encépagement. Parce qu'il y a des variétés qui sont plus résistantes que d'autres. Une piste peut-être intéressante, c'est d'explorer les cépages un peu oubliés. Certains cépages ont été abandonnés parce qu'ils ne produisaient pas assez de rendement. Hein. Après le phylloxera, il faut savoir que tout le vignoble européen a été replanté et on a privilégié, parce qu'il y avait pénurie de vin, les cépages à rendement. Aussi des cépages qui donnaient un bon goût, mais pas que ça. Donc, rendement était une des priorités. Aujourd'hui, beaucoup de cépages ont disparu, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises, et on n'a pas nécessairement expérimenté tous. Donc, j'ai cité l'autre jour, tout à l'heure, dans l'émission Labourio, qu'on trouve dans la région de Marmandais. C'est pas nécessairement un très grand cépage, mais un cépage qui peut apporter un certain nombre de choses, et c'est un cépage qui est plutôt résistant. Il y a un autre volet, à part les cépages un peu perdus, c'est les cépages issus de croisements. D'une part, au début, avec l'arrivée de ces maladies, on a commencé à élaborer des hybrides, c'est-à-dire des croisements entre Vitis vinifera, l'ensemble des espèces indo-européennes, et des cépages venus d'ailleurs, d'Asie ou des Amériques. Ça a produit des choses comme le baco, comme le chamborsin, comme le planté.
C'est pas le cépage qui rendait un peu...
Oui, mais ces cépages sont interdits dans les appellations aujourd'hui, la seule exception étant le baco qui est admis en appellation armagnac. Mais sinon, ils sont interdits. Mais en recroisant ces hybrides avec des variétés de Vitis vinifera, on produit des choses qui sont intéressantes au goût, parce que le problème des Vitis rupestris ou des variétés américaines, c'est le goût. Le Concorde, par exemple, si vous goûtez un Concorde, c'est un goût un peu bizarre, un peu foxé. Donc, si on croise plusieurs fois en insistant sur la partie vinifera, vous développez le goût et vous gardez une partie de résistance. Et l'INRA travaille très activement là-dessus. Le problème, c'est que ces cépages ne sont pas encore inscrits. On ne peut pas encore les planter, sauf à titre expérimental. Donc, il y a un travail à faire et certainement en collaboration avec d'autres pays. L'Allemagne, la Suisse sont deux pays qui sont très en avance là-dessus, qui ont chacun une vingtaine de variétés résistantes. Et l'avantage d'une variété résistante, c'est de ne pas avoir à traiter pas du tout, mais beaucoup moins, ou voire pas du tout. Ça, c'est un enjeu très important. Le problème, c'est double. C'est commercial d'une part, parce que ces noms ne sont pas connus. Donc, on ne peut pas substituer subitement le Merlot par le Rubis Cabernet, par exemple, à supposer que ce nom soit admis. Donc, trouver un nom qui est porteur et ensuite l'implanter. Ensuite, trouver, bien sûr, une bonne adaptation au climat, au terroir, si vous préférez. Et là, ça nécessite beaucoup d'expérimentation. Donc, aujourd'hui, les vignerons ont la possibilité, à titre expérimental, d'implanter ces cépages avec un accord de l'État et avec l'appui de l'INRA pour mener cette recherche. Parce qu'il est impératif qu'on mène cette recherche à grande échelle. L'INRA n'a pu planter que 10 hectares. L'INRA n'a pas tous les moyens possibles, l'INRA ou l'Institut technique de la vigne. Donc il faut que les vignerons soient sensibilisés à ça. S'ils veulent réduire les produits traitants, il faut qu'ils acceptent d'expérimenter avec ces nouvelles variétés. Et des chercheurs antérieurs à l'INRA ont déjà développé plusieurs. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore enregistré. La France a du retard sur ce plan-là.
Donc à suivre, quoi.
Affaire à suivre et affaire de la plus haute importance, aussi bien pour le sol et la santé des hommes que pour l'avenir de la vigne, la santé de la vigne.
Merci beaucoup David Cabol. De fin de ce numéro 607 d'Invino BFM. Pour savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve toujours en public et délocalisé au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, restez fidèles à BFM Business et surtout bon week-end en respectant la plus grande des modérations.